Le MAPIC, le plus grand salon de l'immobilier commercial au Palais des Festivals de Cannes sur Radio Immo.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, vous êtes sur Immo et bien évidemment, on va vous présenter l'édition 2024 du MAPIC qui va se tenir à partir les dates du MAPIC,
c'est du 26 au 28.
Du 26 au 28, ouais, je regardais mon petit conducteur, du 26 au 28, ça aura lieu au Palais des Festivals à Cannes, édition 2024, une thématique bien évidemment que l'on va développer avec le patron du salon, Francesco Pubiu. Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va?
Ça va très bien, on est sous la dernière ligne droite. Donc voilà.
Je vous ai toujours su ultra combatif. Et Dieu sait que cette année 2024 est une année de combativité avec des exposants qui sont toujours là, qui viennent, puisque tout le monde revient au MAPIC. Et cette année, j'ai beaucoup aimé la baseline de l'édition 2024, c'est la nouvelle équation du retail. Explication.
Alors, le constat est plutôt simple. On vit une période de profonde transformation de l'industrie. Il y a deux types de changements qu'on voit aujourd'hui, des changements un peu plus conjoncturels, donc l'inflation, les taux, etc. Mais il y a des changements beaucoup plus de fond sur l'industrie. Et nous, sur ces changements-là, on a voulu un peu focaliser l'attention. Et donc, on peut imaginer le marché de l'immobilier commerce comme une équation où il y a différentes variables à prendre en compte. Et donc, les acteurs du marché, ils doivent gérer toutes ces variables pour trouver une solution, voilà, et pour être profitable. Il y a des variables qui sont connues depuis un certain moment. Donc, l'omnicanalité, la montée du digital, ça fait déjà une dizaine d'années. Donc, aujourd'hui, tous les acteurs, notamment les enseignes, ils ont tous adopté un modèle omnicanal et les acteurs du property aussi, savent gérer ça. Et à ça, par contre, s'est rajouté le changement de fonction du magasin. Aujourd'hui, le point de vente physique est multitask, donc on ne va pas juste pour vendre, on va pour tester, pour échanger, pour vivre une expérience. Voilà, donc changement total avec des impacts sur les modèles business. Donc l'importance de l'expérience, autre variable. Donc, le changement du mix avec la croissance de tout ce qui est expérience, donc food, loisirs, etc. Une nouvelle variable, une troisième variable qui a apparu il y a quelques années et qui devient de plus en plus importante, c'est l'importance grandissante de l'impact environnemental et social du retail. Donc, aujourd'hui, on voit que ce n'est pas juste quelque chose entre guillemets, philosophique au bon pour la planète. On voit clairement que toutes les sociétés qui ont adopté une approche plus responsable à leur développement, ils génèrent plus de chiffre d'affaires, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, il y a un nombre important de sociétés aussi bien property que retail qui se certifient à mission, donc B Corp et autre chose. Donc, si vous allez sur les sites web de toutes les enseignes, le développement durable et l'inclusion et l'impact social est central parce que les générations jeunes, ils sont à fond là-dedans, voilà. Donc, et au niveau de l'investissement immobilier, si vous avez un asset qui n'est pas efficient en termes d'impact carbone, eh ben aucun investisseur est prêt à investir. Donc, il y a des lourds investissements, des investissements massifs pour l'amélioration de l'empreinte carbone. Et une toute dernière variable qui s'est rajoutée depuis quelques temps, mais bon, cette année, on en a voulu parler parce que ça fait un an et demi qu'on en parle beaucoup, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle sur le marché qui est en train de changer tous les modèles de business et les modèles opérationnels traditionnels de l'industrie et la manière à laquelle les enseignes interagissent avec les consommateurs. Donc, ça fait vraiment beaucoup de variables. Et cela a un impact aussi sur le marché immobilier. On voit que la nature des projets qui arrivent aujourd'hui sur le marché sont totalement différents. On est passé de deux décennies où le modèle dominant, c'était le regional mall out of city. Et aujourd'hui, les projets sont des projets de régénération, principalement en lieu urbain, bâtis autour des besoins quotidiens de l'utilisateur. Donc, il y a du retail, mais pas que. Donc, il y a des workspaces, il y a de l'hospitalité, il y a de la culture.
Absolument, voilà. Du résidentiel.
Du développement des sites existants pour les rendre justement plus performants. Donc,
d'ailleurs, vous avez été, Francesco, prémonitoire, finalement, puisqu'il y a plusieurs années que vous prenez la mixité d'usage, la mixité fonctionnelle, effectivement. On le voit avec des opérations telles que, par exemple, les projets de Carrefour avec Nexity qui font retravailler et finalement les surfaces. Il y a 76 hypermarchés qui vont être reconfigurés en mixité d'usage juste sur la France. Je reprends juste pour bien compléter. C'est très intéressant ce que vous dites parce que quand vous parlez de responsabilité sociale environnementale, vous parlez également d'environnement social et gouvernance avec les normes ESG. Tout ça s'inscrit dans la taxonomie européenne, finalement, dans laquelle les levées de fonds, les financements sont aujourd'hui green, c'est-à-dire que ce sont des ratios extra-financiers. Je voudrais juste savoir votre avis. Est-ce que le fait d'intégrer des ratios extra-financiers au financement, finalement, dans le retail, c'est pas une forme de nouvelle philosophie, finalement, du commerce, une nouvelle approche plus humaine, peut-être, non?
Pour moi, le commerce, c'est un peu un reflet des comportements des consommateurs, de la manière de vivre. Aujourd'hui, moi, je dirais que ça va bien au-delà de la partie du financement pur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des prérequis. Donc on ne peut pas investir sous des modèles du passé et aujourd'hui, il faut aller dans l'air du temps et aller dans le futur. Et donc, quand je disais tout à l'heure que ce n'est pas juste philosophique, je disais que c'est concret, c'est business. Mmh. Donc aujourd'hui, pour se faire financer, il faut qu'on soit performant au niveau énergétique et au niveau social. Autrement, on ne va pas récolter de fonds et il y a des critères qui sont...
Il y a à la fois la norme et il y a aussi l'usage qui dicte finalement les opérations. Vous avez parlé également... c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a pas mal d'ateliers, de speakers aussi sur la question et vous allez aussi beaucoup en parler lors de cette édition, c'est l'intelligence artificielle. Oui. Alors l'intelligence artificielle, alors, je vais être volontairement provocateur. C'est un fantasme ou c'est une réalité? Est-ce qu'il n'y a pas entre les deux, finalement, un peu de raison à garder en se disant, finalement, est-ce que les nouveaux vendeurs de demain seront des ectoplasmes digitaux qui remplaceront tout, qui penseront à notre place? Puisque c'est vrai que souvent, quand on dit, on fait une simple requête en disant, faites-moi une dissertation ou faites-moi une note ou faites-moi telle ou telle chose, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une façon, lors du mapping, de replacer aussi les choses dans leur contexte et dans le meilleur sens de l'efficacité?
Alors, moi, c'est intéressant, cette provocation, car quand on parle d'intelligence artificielle, immédiatement, on imagine un robot. En réalité, l'intelligence artificielle est déjà dans beaucoup d'outils qui sont utilisés par l'industrie. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est en train d'impacter toute la chaîne de valeur et pas juste l'acte de vente en magasin. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, pour vous donner quelques exemples, on peut parler d'optimisation de tout le contrat de fourniture, signature des contrats, benchmark automatique, renégociation, etc. On peut parler d'une relation augmentée avec les clients. Donc aujourd'hui, on peut gérer des interactions extrêmement complexe avec le client, parce qu'en plus avec aujourd'hui les nouveaux modèles d'intelligence
artificielle. Ça va bien plus loin que les chatbots habituels.
Les chatbots, oui, parce que c'est pas juste des algorithmes basiques. Là, vous pouvez dire demain, je sais pas, je vais à un mariage dans telle ville, il fait chaud, quel type de tenue je peux avoir. Il y a de la recommandation, on peut faire des recommandations en magasin, mais ça va beaucoup plus loin parce qu'après on a toute l'analyse de la vente. Donc aujourd'hui, avec des systèmes de caméras qui voient dans le magasin le niveau de produits sous les étagères. On peut optimiser aussi les plans de production. On peut,
certains, ils arrivent aujourd'hui
à la gestion du stock, des commandes. On arrive à croiser ces informations sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour lancer en temps réel presque des nouvelles lignes de production.
Jusqu'à faire des analyses prédictives éventuellement.
Exactement, avec l'intelligence artificielle générative.
Sur la tendance.
Et après, on a toute la partie marketing aussi. Aujourd'hui, on a des campagnes publicitaires qui sont faites complètement par l'intelligence artificielle. Donc, ça va très loin. Il y a plein de problématiques. Il y a une problématique de propriété intellectuelle, de privacy.
Il n'y a pas de danger, selon vous, de substitution à la démarche humaine? Est-ce qu'il n'y a pas finalement, on ne demande pas finalement à l'intelligence artificielle de penser à la place? Non, pour vous, c'est pas un danger.
Je pense pas. Moi, j'ai toujours eu une vision très, très rationnelle sur le sujet, parce qu'on a vécu plusieurs... j'ai un certain âge maintenant, donc à partir du moment où j'ai commencé à travailler, on a vécu différentes révolutions au niveau du digital et chaque fois, moi, je les vois comme des outils qui nous permettent d'aller vers l'avant. Il faut s'adapter, donc il ne faut pas rester ancré à ce qui était les modèles du passé, parce que de toute manière, la technologie, on ne pourra pas l'arrêter, mais on peut y trouver des opportunités de croissance. Donc considérer ce nouveau monde et voir comment on peut trouver des opportunités de croissance.
Quelles sont les innovations on a l'IA, bien évidemment, mais les grandes innovations qui seront présentés sur cette édition, alors, qui vous viennent à l'esprit?
Donc, cette année, nous, on a, comme tu l'as dit, on vit une période extrêmement challenging.
On va le dire comme ça.
Challenging, avec plein de challenges, mais le besoin de nos clients, surtout des responsables, donc des foncières, c'était de pouvoir identifier des enseignes qui sont dans une phase de développement. Donc, nous, on a mis vraiment beaucoup le paquet sur ça. Donc on a lancé une grosse initiative cette année, c'est l'Observatoire des enseignes en développement. Donc le constat, c'était simple. Donc, bon, il y a plein d'enseignes qui optimisent, mais il y a plein d'enseignes qui aujourd'hui, ils ont fait des choix stratégiques clairs et ils arrivent à avoir une stratégie de développement sur plusieurs marchés. Donc on a été monitorer un peu les principaux marchés européens pour voir qui sont les enseignes qui sont en phase de développement sur ces marchés, surtout qui ne sont pas présents dans un des marchés principaux. Donc on a monitoré le UK, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, et qui veulent y rentrer. Donc, bien évidemment, donc on a créé cet observatoire, c'est un guide où on a une vingtaine d'enseignes, c'est pas exhaustif, il y en a beaucoup plus, mais déjà ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'il avait fallu vraiment monitorer, mapper ces marchés. On a sorti des enseignes qui sont en phase de développement. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une expérience challenging, mais on est étonné de pouvoir avoir le nombre d'enseignes qui sont quand même dans une phase de développement. Donc on le voit, on voit des niches qui se développent bien. Donc,
est-ce que finalement ces marques, si vous souhaitez les citer, vous pouvez d'ailleurs, hein, y a pas de souci, justement à travers, je trouve ça extrêmement ingénieux, hein, cet observatoire de l'expansion des marques, parce que en fait, il permet de mesurer à quel point finalement les innovations, la poids d'usage, les concepts finalement se réforment ou se retravaillent ou se créent. Il y a une vraie, on va dire, créativité. Je vais même aller plus loin. Est-ce que tous ces bouleversements que nous connaissons dans le monde du retail ne sont-ils pas propices au changement justement?
Ah oui, mais on en parlait avant le live, c'est toute évolution, il comporte la disparition d'anciens modèles et l'arrivée des nouveaux modèles.
C'est une vision un peu schumpeterienne.
Décision créatrice, donc et forcément, ce sont les gens qui s'adaptent, même darwinienne, je dirais, ce sont les gens qui s'adaptent aux nouvelles contraintes, qui arrivent à trouver des opportunités pour une nouvelle phase de croissance. Et on le voit très bien, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'anciens traditionnels qui sont en difficulté, certains sont amenés même à disparaître, mais on voit aussi des enseignes qui aujourd'hui affichent des profits records, et donc parce qu'ils ont su prendre mieux le virage de ce nouveau monde par rapport à d'autres. Donc,
il y a des projets comme Nepi et Rocastle par exemple, je ne sais pas si je le dis bien.
Oui, ils ont des projets
IGD, Seven, Diria, Inca, Entrecampo, Nood, Sanae, Sierra, Rustioni. Le MAPIC, c'est pas du mètre carré, c'est avant tout, du contenu. Il y a vraiment du jus de cerveau qui circule. C'est aussi l'occasion de faire des affaires, bien évidemment, de nouer des relations. C'est historique dans le MAPIC. Là, on a des contenus qui sont de très, très bon niveau.
On est obligé, dans une période de transformation, les gens viennent, bien évidemment, on est jugé principalement pour l'héroïne du salon, donc le niveau du business qui est fait. Donc c'est pour ça l'attention sur le retail. Mais on est aussi dans des périodes de transformation. Ce qui est important, c'est la perspective. Donc montrer à tous nos participants ce qui se fait de mieux aujourd'hui, les nouvelles voies qui sont explorées par des acteurs. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, clairement, quand beaucoup de clients me disent « Ah, mais il n'y a plus de projets ». Non, il y a des projets. C'est juste que la nature des projets a radicalement changé. Ça fait 2-3 ans qu'aujourd'hui, les projets qu'on présente au MAPIC sont des projets mixtes ou des projets de redéveloppement.
Bien sûr.
Ce sont bien des projets,
bien sûr,
mais ce sont différents. Donc aujourd'hui, on n'a plus de permis de construction pour faire des régionales en dehors des villes. Donc, par contre, on transforme des portions de villes. Et voilà. Donc, depuis l'année dernière, on avait déjà parlé. Cette année, on a un événement dédié qui s'appelle The Retail Urban Regeneration Forum. Donc on parle des projets de régénération urbaine où le commerce a un rôle majeur en Europe et dans le monde entier. Et on a un projet d'Arabie Saoudite. On a 2 projets au Portugal, on a un projet en Italie, on a des projets en France. Donc voilà, il y en a partout. Donc l'année dernière, même sous les awards, on a donné un award à Battersea Power Station, qui est un landmark absolu de ce qui se fait de mieux. On a des projets en France d'extrême qualité sous la régénération. Et donc voilà, je pense qu'on est juste rentré dans une nouvelle ère où ce type de nouveau projet demande des nouveaux modèles de financement. Donc c'est tout le paradigme qui a changé.
Et ça demande un peu de temps. Je consultais l'ensemble des poids lourds du secteur et habitués du MAPIC, ils disent la même chose sans aucun... C'est the place to be, quoi. C'est-à-dire que vous avez sanctuarisé le MAPIC de manière à finalement être toujours cette fameuse agora dans lequel se rencontre, parce que même toutes ces applications, toutes ces technologies ne remplacera jamais la poignée de main, le regard tactile. D'ailleurs, je vais même aller plus loin. Finalement, l'intelligence artificielle et toutes ces matières renforcent cette qualité humaine de la rencontre. C'est bien l'objectif. Vous avez parlé de régénération urbaine, quelque part. On l'a vu, finalement, fut une époque, on a connu, vous et moi, des centres commerciaux qui étaient en zone périurbaine, qui aujourd'hui maintenant sont touchés par la ville et sont intégrés directement dans la ville. Je voudrais qu'on redéveloppe aussi, et puis dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent, que ça devienne réalité. Aujourd'hui, la vision finalement du property comme de l'asset, c'est une vision 360 degrés hein, de tous les usages. Ça part du résidentiel à l'hospitalité, en passant par le retail et même des bâtiments tertiaires.
Absolument. Aujourd'hui, c'est nécessaire
pour
l'équilibre et la profitabilité de ces acteurs.
On a des acteurs multiples, là, forcément. Quelles sont la typologie, justement, de ces acteurs quand on voit, on a toujours... est-ce qu'il y a plus de tendances avec les marques, les promoteurs, les constructeurs? Comment vous répartissez? Quelle est la typologie, aujourd'hui, des visiteurs du salon comme des exposants?
La typologie n'a pas forcément changé. Ce qui a changé, c'est la manière de travailler, le type de projet qu'ils présentent aujourd'hui. Donc, aujourd'hui... Moi, je me suis trouvé à des rendez-vous entre enseignes et promoteurs, des enseignes qui demandaient aux promoteurs qu'est-ce que tu as dans ton projet comme activité de loisir, autre activité que du retail. Donc, pour le retailer, c'était important parce que ça, c'est une garantie de trafic.
C'est clair.
Donc, ils commencent tous. Maintenant, le fait d'être mixte, c'est une nécessité. Mmh. Donc, aujourd'hui.
Et même la proximité vraiment résidentielle. Hein,
oui.
Parce que, bien évidemment, tout
il n'y a plus aucun gros projet qui ne prévoit pas de résidence. Nous, on a les finalistes des Mapic Awards qui ont été annoncés et ils sont tous sous des projets mixtes.
Est-ce que les tailles sont plus petites en volume?
Oui, après,
soit dans les malls,
c'est difficile de comparer, c'est-à-dire que peut-être en valeur absolue, la taille d'un quartier de région urbaine est beaucoup plus grande, mais la partie commerce à l'intérieur est réduite, bien évidemment. Donc, centrale.
Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que finalement, on n'est plus sur les grands ensembles qu'on a connus, sur des volumes.
Des mégamalls, non?
Aujourd'hui, des mégamalls qu'on a connus, qui ont été célébrés, qui ont été faits partout par la planète. Aujourd'hui, on a des parcours. Du personal shopper finalement qui est plus fin, plus intime, plus confidentiel, plus basé sur l'expérience.
Sous l'émotion aussi.
Sur l'émotion, absolument. Sur l'émotion, mais aussi le côté magique et pratique. Le côté pratique, c'est la crèche qui permet de mettre les enfants dans un club lorsqu'il y a des éléments. C'est le food aussi qui a pris une partie prépondérante, mais pas le food tel qu'on l'a connu.
C'est
d'extrêmement bonne qualité, de très très belles factures. Il y a des très belles initiatives. J'en ai vu une il n'y a pas très longtemps à côté de Rungis avec One Place qui a été une formidable initiative assez intéressante, mais il y a aussi bien évidemment une place pour, j'allais dire, l'éducation de loisirs, je pourrais le dire comme ça.
Oui, la culture.
Ouais, voilà, culture en général, qui devient de plus en plus prépondérante.
Ben, aujourd'hui, c'est un phénomène, on a une conférence qu'on a souhaité vraiment beaucoup faire, la thématique est le centre commercial comme une scène.
Okay. Ah oui.
Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de promoteurs qui travaillent avec des spécialistes de la programmation culturelle ou événementielle, parce que chaque semaine, dans un centre commercial, on peut avoir des initiatives différentes, des initiatives éno-gastronomiques, des initiatives culturelles, donc ça se permet chaque fois de renouveler, de faire venir. Il y a plein de projets qui ont été faits sous cette base-là, et donc ça devient vraiment un axe majeur d'animation. Des lieux de vie aujourd'hui.
Oui, devient vraiment le lieu social par définition. Sur cette édition 2020, alors bien évidemment, Vous n'éludez pas les difficultés que le secteur traverse, à la fois sur effectivement la grande violence des taux d'intérêt qui a augmenté de façon assez virulente il y a maintenant presque 2 ans, et maintenant heureusement un plateau qui permet maintenant
une stabilisation.
Banques se remettent à prêter. Clairement, elles l'ont annoncé. Donc on a un plateau. On a une inflation qui commence à être contenue et qui redescend donc de façon plus intéressante. Et on a une meilleure maîtrise des matières premières notamment. Et de la relocalisation d'industries, notamment, je fais allusion par exemple aux industries textiles, mais pas que. Combien vous attendez de participants cette année? Elle sera basée sur quel volume?
Je pense qu'on va être sous les 4500 participants, le qui est plus que l'année dernière. Le chiffre intéressant à retenir, c'est qu'on attend 200 enseignes plus que l'année dernière. L'année dernière, on en a eu à peu près 1004, donc on va être sous 1600 enseignes.
1600 enseignes.
Représentants d'enseignes. Donc après,
énorme.
En termes de marque, on doit être sous les 700, à peu près 700. Et je trouve que c'est une performance extraordinaire dans une période comme celle que nous connaissons, et ça montre à quel point les acteurs du marché, ils ont besoin de se rencontrer pour évaluer quelles sont les meilleures opportunités et les schémas de croissance possibles.
Le networking, ça reste aussi l'un des ADN du salon, hein, pour pour bien faire se rencontrer
c'est la clé, c'est la
les
clé.
Investisseurs et les opérateurs, puisqu'il y a vraiment des rencontres qui sont essentielles, il y a beaucoup d'échanges qui se fait, ça reste aussi, là encore une fois, la place où il faut être, bien évidemment, pour cet élément. Cannes, c'est un peu la, je veux dire, c'est vraiment la période à Cannes la plus forte avec le Olympique, et ce sera ma dernière question. Est-ce que le rôle des élus, justement, est-ce que vous attendez des élus qui vont venir
cette année?
Je sais qu'habituellement vous en faites toujours, voilà.
On a même un pavillon des villes françaises qui viennent. Donc l'année précédente, on les avait
présentés
comme participants. Là, ils viennent vraiment avec des pavillons.
Avec en fait, projets.
Les villes aujourd'hui, ils ont à gérer de la vacancie dans les rues commerçantes. Donc, ils viennent présenter des initiatives. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, on a tout un tas de projets en France, effectivement, sur le réaménagement des entrées de ville, sur plein d'initiatives. Donc, ça devient central. Et on a vu, effectivement, les villes venir. Donc, si vous voulez, MAPIC, c'est une vitrine voilà, de ce qui se passe dans le marché. Donc, effectivement, on le voit. Et donc, voilà, on aura même des sessions où cette ville, ils vont pas présenter leurs initiatives. Je me permettrai juste de donner deux pilules par rapport au marché français, qui est super intéressant. Cette année, on va voir deux choses plutôt nouvelles. On va avoir un focus important sur l'investissement. On aura deux sessions sur l'investissement. C'est la première fois où on fait parler vraiment des investisseurs. On a une session plus européenne. Mm-hmm. Et après, on aura on va faire un forum France. Donc, le deuxième jour, il va durer 2 heures. Il y aura 3 parties. Donc, une première partie, c'est un point de vue des investisseurs sur le marché de l'immobilier de commerce en France. Après, une deuxième partie sur les projets de régénération urbaine, une troisième partie sur les enseignes qui veulent rentrer sur le marché français. Donc, ce Forum France, c'est vraiment quelque chose de nouveau et on donnera la parole aux investisseurs. Donc,
c'est une excellente initiative avec des poids lourds de l'investissement d'ailleurs qui seront également présents. Donc, ça aura lieu au Palais des Festivals à Cannes du 26 novembre au 28 novembre. On peut bien sûr s'inscrire encore.
Absolument.
Vous allez sur, vous tapez simplement le MAPIC édition 2024 et vous avez toutes les informations qui arrivent sur le site. Bien évidemment, vous venez. Est-ce qu'on peut encore exposer? Non, c'est trop tard là. On peut.
Là, c'est un peu tard.
là, c'est un peu tard. Bon, bah désolé les amis. En tout cas, une chose est sûre, c'est que venez au MAPIC puisque vous verrez toutes les initiatives. Moi, j'adore ces sessions là puisque on découvre vraiment tous les pans du commerce. En plus, je peux vous dire qu'il y a des expériences notamment au niveau du foot qui sont très sympathiques, et je me souviens d'une expérience immersive avec un harnais qu'on m'avait mis plongé dans un game absolument incroyable. C'était absolument phénoménal. C'est toujours un moment, parce que c'est important, aussi festif, hein, faut le dire, où les gens se rencontrent dans une ambiance cannoise extrêmement sympathique. Merci Francesco.
Merci.
Voilà, je vous encourage bien évidemment à regarder les speakers, les contenus du MAPIC. Si vous n'avez pas la possibilité d'y participer, vous inquiétez pas, de toute façon, nous courirons largement cet événement, comme nous le faisons depuis plusieurs années. D'ailleurs, on vous est au titre de la rédaction hein, et avec nos équipes. Remercie Francesco Pipillo pour la confiance que vous nous témoignez chaque année pour couvrir ce fabuleux événement. MAPIC 2024, ça sera du 26 au 28 novembre. On vous souhaite que des belles choses. Prenez soin de vous et on se retrouve toutes et tous à Cannes pour cette édition 2024.
Le MAPIC, le plus grand salon de l'immobilier commercial au Palais des Festivals de Cannes sur Radio Immo.